Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Canal Académie vous propose une série de trois émissions sur les Borgia avec Guy Le Tieck, historien moderniste, professeur d'histoire moderne à l'Université d'Aix-Marseille et auteur d'un ouvrage intitulé « Les Borgia, enquête historique » aux éditions Taillandier. Bonjour Guy Le Tieck.
Bonjour.
Merci de votre venue dans notre studio. Donc vous avez décidé de mener une enquête historique pour éloigner la légende et revenir à la réalité historique. Réalité qui, en l'occurrence, vaut bien tous les romans et toutes les légendes.
Nous sommes d'accord.
Le scandale attaché au nom des Borgia ne tient pas uniquement au fait qu'un pape, avant son pontificat, il avait eu des enfants, il n'a pas été le seul. En fait, c'est plutôt, je crois, le comportement de ces personnages qui défraye la chronique et qui va enflammer les esprits jusque nos jours, depuis le XVIe siècle. Alors, pour cette première émission, Guy Le Tieck, qui sont les personnages principaux de cette dynastie? Comment peut-on cibler cette dynastie catalane qui débarque en Italie?
Alors effectivement, c'est une dynastie ancienne, relativement, puisqu'elle est arrivée de la région de Valence. Ce sont des Valenciens qui tiendraient plus à être désignés comme Valenciens que Catalans. Ils sont arrivés dans la première moitié du XVe siècle, aux alentours des années 1420, et le chef de cette famille valencienne, Borja, Alphonse, Alonso de Borja, est un conseiller donc du nouveau roi de Naples, qui est aragonais. Et ses talents de diplomate, alors qu'il est déjà clair, lui valent d'être non seulement remarqué par son roi, cela avait déjà été le cas, mais très vite, car il contribue à résoudre le schisme, d'être distingué cette fois et récompensé par la papauté, et de se voir accorder la dignité de cardinal, et à cette occasion de voir son nom valencien de Borja italianisé en Borgia. Et c'est à cette occasion, si j'ose dire, que la dynastie Borgia naît sur le sol italien et elle va donc donner deux papes. Phénomène qui n'est pas exceptionnel, mais qu'il faut garder à l'esprit pour comprendre ce qu'est une dynastie à la Renaissance, une dynastie pontificale à la Renaissance et les enjeux dynastiques.
Alors c'est Calixte III, le
Calixte
premier.
Calixte III, voilà, qui, dans le pontificat bref, a couru de 1455 à 1458. C'est un hasard de conclave qui l'a fait pape puisqu'il n'y avait pas d'accord et qu'on a choisi le plus vieux candidat, un candidat de compromis, mais décision déterminante bien sûr pour le destin de sa famille. Et comme toutes les familles pontificales, il faut voir si l'action de cet individu, il ne faut pas la jauger avec des critères anachroniques et balayer, si vous voulez, toute une politique avec la seule critique de népotisme. Le népotisme, c'est un système politique qui permet d'avoir à ses côtés des hommes de confiance, à commencer par ses neveux, puisque théoriquement, les papes n'ont pas d'enfants. Et la grande originalité, pour ne pas dire sans provocation la chance de notre pape Alexandre VI, c'est que lui a eu non seulement des neveux, mais en plus des enfants.
Ça a été sa chance, mais aussi sa faiblesse, on verra ça quand même, parce qu'il avait le cœur très penché vers ses enfants. Donc on va continuer à évoquer tous ces personnages. On va parler du futur pape, c'est-à-dire du temps qui s'appelait Rodrigue.
Effectivement, donc il naît sous le prénom de Rodrigo, à la ville de Játiva, au sud de Valence. Et le destin de son oncle fait qu'il est assez vite appelé, à la fin de son adolescence, aux côtés donc de son oncle pontife, qui a tout simplement l'intention de lui accorder une carrière, somme toute exceptionnelle, ainsi qu'à son proche parent, son cousin. Et arrivant donc en Italie, il ne faut pas perdre de vue qu'il a déjà été façonné en quelque sorte par cette culture valencienne qui se reflétera dans son pontificat et qui, je dirais, est une des marques de l'originalité et sans doute de nombre d'incompréhensions le concernant. Arrivant en Italie, il va avoir à Rome la meilleure éducation du temps avec un humaniste qui est issu de la grande école pédagogique et réformatrice de cet humanisme italien qui est Gaspard de Vérone. Et par la suite, se destinant à une carrière ecclésiastique et ayant déjà quelques prébendes dans ce domaine, il se doit de faire son droit. À l'époque, évidemment, on fait un double doctorat, pourrait-on dire, en droit canon, bien sûr, le droit de l'Église, mais aussi en droit civil à Bologne, dans la capitale, si j'ose dire, des études juridiques pour l'Italie et pour une bonne partie de l'Europe. Et il revient donc très vite nanti de son titre de docteur au début de sa une vingtaine d'années. Là, bien évidemment, son oncle qui veille à sa destinée l'a nommé au grand scandale du Sacré Collège déjà cardinal, ainsi qu'un de ses proches parents. Et la brièveté du pontificat de son oncle, a priori, je dirais, menaçait le destin de Rodrigue si cet oncle bienveillant n'avait pris la précaution de lui donner le second poste dans l'administration pontificale, le poste prestigieux, ô combien rémunérateur, de vice-chancelier, qui en fait le deuxième personnage de l'État pontifical.
Mais il y est resté, parce que c'était ça qui était pas évident.
Et il reste parce que ce n'est pas... Oui et non, on a, je crois, assez peu d'exemples de vice-chanceliers qui étaient démis par des pontifes successeurs. En fait, l'habileté et le métier que va apprendre Rodrigue Borgia de se rendre vite indispensable pour la circonstance essentielle de la vie de cet État, qui est le conclave. Et pour tous les successeurs immédiats de Calixte III, à commencer par le premier, Pie II, Rodrigue va avoir une assez grande habileté à former des majorités décisives pour les élections pontificales. Et il va être ainsi ménagé par les successeurs suivants, Paul II, Sixte IV, Innocent VIII, et finalement, un jour, son tour vient, enfin, alors qu'il a 61 ans, en 1492, eh bien, il parvient à se faire élire pape, on évoquera dans quelles circonstances.
Oui, ça sera le sujet de notre seconde émission, quand on va faire passer le cardinal Rodrigue au pape Alexandre VI. On va parler un petit peu des enfants, César, Jean, Lucrèce, César, condottiere, extraordinaire, flamboyant, destin qui a même intéressé Machiavel, un personnage unique.
Absolument, mais un personnage, là encore, dont le destin n'était pas écrit, puisqu'il était destiné, il était celui des enfants qui était destiné et qui est devenu cardinal, en fait. Et il faut prendre, pour bien comprendre la place et le sort des enfants Borgia, il faut prendre en compte, je dirais, tous les enfants Borgia, les plus connus, bien sûr, César et Lucrèce, mais aussi ceux qui sont moins, voire presque ignorés, je dirais, par la postérité. Le pape a en tout quelques 7 enfants. 3 premiers enfants de mère inconnue, mais parmi ces 3 premiers, il y a le fils sur lequel, à l'origine, il investit beaucoup, qui est Pedro Luis. Pedro Luis qui meurt prématurément, mais il a eu le temps de se révéler un grand homme de guerre au service de la couronne, sinon d'Espagne, ou moins aux côtés de Ferdinand d'Aragon. Et ce qui a valu, avec la sagesse de son père, qui avait été, avant même d'être pape, légat en Espagne, cela a valu à cette famille Borgia, en la personne de Pedro Luis, un duché, le duché de Gandie. Ce duché de Gandie a beaucoup d'importance, c'est, je dirais, la base territoriale
espagnole.
Et Borgia, le pape même, mettra du temps à se décider entre une implantation en Italie ou dans son pays valencien, et il ne choisira jamais. En fait, la famille aura, si vous voulez, ces deux dimensions qu'on oublie souvent. On voit les Borgia attachés à l'Italie, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une dynastie des ducs de Gandie, preuve précisément aussi des ambitions politiques de cette famille dans leur pays d'origine.
Donc César était le numéro 2.
Donc César
dans
est le numéro 2, effectivement, parmi les dans cette fratrie. Parfois, on dit qu'il est le cadet des cadets, c'est-à-dire qu'il vient d'après Jean, mais pas du tout. En fait, il est né en 1475, quand le troisième fils, qui a aussi son importance, Jean,
né
en 76. Et il y aura un dernier fils, moins connu, mais qui a aussi son importance, qui est Geoffrey. Bon, si on francise, effectivement, tous les prénoms. Et dans s'intercalant, parmi tous ses fils, il y a donc deux premières filles moins bien connues, et bien sûr, Lucrèce, qui est née en 1480. Et tous ont, je dirais, un intérêt particulier par la destinée qui est la leur, très contrastée. La plus flamboyante, effectivement, c'est celle de César, qui, de cardinal, s'improvise en quelque sorte condottiere et chef de famille, après la mort non seulement, bien sûr, de son frère aîné, Pedro Luis, mais aussi l'assassinat de son frère cadet, Jean, qui le pousse à abandonner l'État ecclésiastique.
Ça va être un chef de guerre ?
Ça va être un incroyable chef de guerre. Il faut imaginer, je ne crois pas je n'en ai pas trouvé des traces, si vous voulez, de sa pratique des exercices militaires ou même des exercices d'armes alors qu'il était cardinal. Mais de fait, c'est un des plus grands capitaines de guerre du temps, après avoir abandonné son état, après avoir abandonné la pourpre. Alexandre VI comprend tout le parti qu'il peut tirer de cette ce que Machiavel appellera la virtu, c'est-à-dire cette force intérieure, et ce génie militaire qui est celui de César, très habile aussi pour négocier d'autres appuis, puisqu'il sera l'allié de Louis XII, et il aura comme soutien la puissance de cette première armée d'Europe à l'époque. Par conséquent, entre les mains du pape, et sans doute de concert dans la définition de cette politique, César part, non pas à la conquête de l'Italie, il ne faut pas mettre trop de romantisme dans cela, c'est tout simplement dans la reconquête des États du pape, sur lesquels la papauté avait, je dirais, un peu une main un peu molle dans cette gestion quotidienne. Et le terrain de guerre par excellence de César, c'est la Romagne. Mais il ne faut pas le limiter à cela. Et Alexandre VI va notamment l'associer aux entreprises militaires des Français contre le royaume de Naples également.
Et c'est là que ça va être très important pour César, pour la suite, au moment où ça va peut-être basculer. J'anticipe.
Oui, en anticipant un petit peu, mais effectivement, Naples, si vous voulez, Alexandre VI, qui est la quintessence de la diplomatie de la Renaissance, a parfaitement compris que cette dynastie aragonaise en place à Naples est éminemment fragile. Et par le jeu des alliances matrimoniales dans un premier temps, puis certaines expéditions de César aux côtés de la France, il a manifestement ambitionné de peut-être permettre à ses descendants d'accéder aussi au trône de Naples, qui, il faut imaginer que dans ce début des guerres d'Italie, inauguré par Charles VIII en 1494, de 1494 à 1503, il y a près de 5 souverains distincts qui se sont succédés sur le trône de Naples, donc le jeu est ouvert en quelque sorte. On comprend mieux ainsi cette politique matrimoniale intense d'Alexandre qui va multiplier les unions avec la dynastie aragonaise pour mettre en quelque sorte ses descendants déjà, leur mettre un pied dans ce même royaume.
Et quand son père meurt, c'était évidemment envisagé, c'était suffisamment sens politique pour l'organiser, peut-être même d'ailleurs avec son père, mais qu'est-ce qui s'est passé qui a fait qu'en fait il n'a pas pu reprendre le gant ? Je parle de César.
Bien sûr, César, comme il l'a confié à Machiavel, qui l'a suivi au moins 3 mois lors de ses conquêtes, César avait tout envisagé, parce qu'évidemment, il connaît l'âge du pontife, son père, qui est parvenu sur le trône avec une santé extraordinaire. Il faut imaginer Alexandre VI, si on y revient un instant, comme non pas un colosse, mais une force de la nature avec un tempérament tout à fait singulier, noté par ses contemporains. Mais tout homme est immortel, y compris les pontifes. Il a bien sûr envisagé cette menace majeure pour un clan associé à un pontife, qui est la disparition, bien sûr, des pontifes. Et alors qu'il a tout imaginé, comme il le confie à Machiavel, il était loin de pouvoir imaginer qu'il serait lui-même malade au moment de la mort de son père. Et cette faiblesse physique est une faiblesse majeure d'un point de vue politique, puisqu'il ne pourra pas, comme il le projetait, et comme sans doute le pape l'avait également projeté, faire pression sur le conclave et faire un nouveau pape à sa solde, en fait. Et donc là, c'est le début des péripéties ultérieures qui vont assez vite accélérer sa chute. Donc le pape meurt en août, le 20 août 1503. Le conclave va se réunir assez rapidement et élire un pape de transition, là encore, le pape Pie III, suffisamment vieux et malade pour ne durer qu'effectivement que 3 semaines. Mais là, César, une fois rétabli, est très puissant. Il a toujours son armée, il est respecté tant par la France que par l'Espagne. Mais au fur et à mesure, ses positions vont assez vite se déliter, d'autant plus que l'adversaire mortel, l'ennemi juré des Borgia, le cardinal Julien de la Rovère,
Jules II est en place.
Voilà, est élu par le nouveau conclave. Et là, évidemment, César, là encore, Machiavel s'interroge. Comment a-t-il pu être aussi dupe de Jules II et croire, comme il avait négocié avant le conclave, qu'une simple promesse de Jules II lui vaudrait la confirmation de tous ses privilèges? Évidemment, une fois pape, grâce entre autres à l'appui des cardinaux espagnols à la solde de César, eh bien, le pape n'a pas suivi ses promesses.
Oui, parce que vous êtes en train de toucher encore un point sensible, c'est que cet homme qui, quand même, je parle toujours de César, qui a été lâché plus ou moins parce que Louis XII avait moins besoin de lui, a finalement été touché par les Espagnols. Et ce n'est pas les Italiens.
Non. Les Italiens, la difficulté, c'est, si j'ose dire, qui sont-ils, puisqu'ils n'existent pas en tant que tels, mais c'est bien ce jeu complexe, enfin, qui rend d'autant plus complexe la guerre d'Italie. Mais par contre, précisément, l'Espagne, et plus particulièrement, c'est Ferdinand d'Aragon, l'homme de cette Méditerranée occidentale, qui donc a eu l'habileté de s'allier avec la France pour la conquête de Naples, mais tirant déjà toutes les leçons des guerres passées, sachant très bien que la France ne pourrait pas tenir longtemps ce royaume de Naples trop lointain. C'est Ferdinand d'Aragon qui a parfaitement jaugé les ambitions de César et sa capacité militaire et qui s'en méfie énormément. C'est Ferdinand d'Aragon qui va être l'instrument de sa chute, puisque alors que Jules II l'a fait emprisonner, le roi d'Aragon parvient à obtenir sa libération pour mieux l'emprisonner dans un premier temps à Naples, puis le transférer en Espagne et le garder, je dirais, sous sa surveillance. Et César, de façon un peu rocambolesque, s'échappera de cette forteresse de Medina del Campo et tentera désespérément de renouer avec son destin de prince, hein, auquel il aspire tant. Et son dernier terrain de bataille, c'est celui que lui offre son mariage avec une princesse d'Albret, c'est-à-dire la Navarre. Et il combat au profit de sa famille, mais ensuite c'est les hasards de la guerre et il meurt, cerné en tombant dans une embuscade d'une vingtaine d'hommes. Et roué de coups et percé de coups, il mourra ainsi de façon, je dirais, c'est un destin d'homme de guerre finalement. Mais ça n'est fini de la puissance véritable des Borgia.
Oui, en fait, il a été battu par un autre fauve, parce que Ferdinand d'Aragon, c'était un homme qui avait la facilité de repérer les gens de sa valeur, de
oui,
sa propre
Ferdinand
valeur.
Ferdinand d'Aragon, je dirais, on dit souvent que César Borgia est le modèle du prince, du traité du prince de Machiavel, mais je dirais, si on lit attentivement le traité, on voit peut-être que c'est bien plus Ferdinand d'Aragon qui a pu jouer ce rôle de prince idéal aux yeux de Machiavel, que César Borgia, qui dans Le Prince, il faut le rappeler, a une part minime en comparaison de celle qui est accordée à Ferdinand, et qui est un des plus grands hommes politiques de son temps. Il faut imaginer ce roi d'Aragon et cette reine de Castille, Isabelle, tous deux si mécontents de l'élection d'Alexandre VI, craignant, d'après le témoignage d'un de leurs chroniqueurs, craignant beaucoup, paradoxalement, de l'avènement d'un pape espagnol, enfin, que l'on pourrait dire
oui,
espagnol.
Paradoxalement.
Oui, paradoxalement. De fait, c'est Ferdinand qui gagne et qui parvient ainsi à neutraliser cette puissance Borgia, tant en Italie, pour le coup, qu'en Espagne, aux marges du royaume d'Aragon. Navarre comme duché de Gandie.
Tout à l'heure, on avait parlé un tout petit peu de Jean, parce qu'il faut quand même l'évoquer, mais on finira surtout sur Lucrèce, bien sûr.
Jean, oui, effectivement, il n'a guère brillé, lui, en fait, lui qui était le chef de cette maison après son père, bien sûr, dans le siècle, n'est pas un grand homme de guerre, et lorsqu'il disparaît à l'occasion, sans doute, d'une aventure galante en juin 1497, mais dont l'assassinat a été organisé et préparé, bon, il ne laisse pas autre chose que des héritiers qui seront duc de Gandie. Il reste donc Lucrèce. Si Lucrèce a autant d'importance, il faut le comprendre par, je dirais, son âge, tout simplement. En effet, elle a deux sœurs aînées, mais qui ont déjà été mariées au moment où Alexandre est pontife. Alors que Lucrèce est, je dirais, dans la fraîcheur de ses 12 ans, lorsque l'on décide sa première union. Et l'on voit, c'est quand je parlais initialement de chance pour ce pouvoir pontifical, l'on voit précisément qu'elle a tout été une fille de pape, quand précisément le pape doit établir ou se poser comme prince de la Renaissance, y compris politiquement. Et cela passe par la conclusion d'alliance, et donc d'alliance politique et donc matrimoniale.
Oui, parce que c'était un élément politique, point final.
Oui, point final. Elle a d'autres dimensions, mais dans les mains de son père, bon, qu'il a sans doute, ça en a des témoignages aussi, beaucoup aimé, effectivement, c'est la fonction de toutes les filles de permettre ces alliances matrimoniales et de voir un clan intéressé, tout un clan, y compris ses proches frères, intéressés aux alliances et aux unions de leur sœur cadette Lucrèce, deux fiançailles défaites dans un premier temps, espagnoles au départ, autour du duché de Gandie, puis, précisément, au fur et à mesure de l'avancée de la politique de son père Alexandre VI, le choix d'unions de plus en plus prestigieuses. Une simple alliance milanaise avec un membre de la famille Sforza, qui est son premier mariage, mais pour les convenances de la politique, on décide de défaire ce mariage en invoquant l'impuissance et la non-consommation de l'union par l'époux. Et ensuite, d'autres cartes politiques qui sont abattues. Naples, encore et toujours, avec cette union avec l'un des princes de la maison, Alphonse. Mais là, la fratrie et la famille ou le clan jouent à plein, puisque ces Borgia, en l'occurrence César, heureusement non, qui n'était plus cardinal, assassine purement et simplement son beau-frère avec lequel il ne s'est jamais entendu. Et enfin, le dernier, celui, si j'ose dire, par lequel Lucrèce se sauve, le duc de Ferrare, Alphonse d'Este. Union prestigieuse, parce que cette maison des Estes est déjà ancienne. Elle a d'ailleurs répugné, dans un premier temps, à contracter à ce que l'un de ses membres, en l'occurrence le duc, contracte une union avec une famille à l'extraction, bon, non pas roturière, mais de moyenne noblesse espagnole. et nouvellement arrivé, somme toute, dans la péninsule. Et donc, très habilement, la maison des Est a fait monter les enchères, une dot de 100 000 florins, si j'ai bonne mémoire, et toutes sortes de privilèges. Le pape soigne particulièrement cette union. Pourquoi ? Non pas simplement pour le prestige, mais parce que le duché de Ferrare est contigu de la Romagne, et cela, encore une fois, consolide le pouvoir de César, reconquérant la Romagne pour son père, que d'avoir un voisin qui est un allié face à la toute proche Venise, qui est l'autre voisin, mais qui est d'un maniement plus délicat.
Bien sûr, c'était une stratégie territoriale.
Absolument.
Pour terminer sur Lucrèce, c'était un personnage assez attachant parce que aimant l'art aussi.
Oui, elle a développé, comme duchesse de Ferrare, un mécénat à l'échelle de son duché et surtout des relations avec la fine fleur de l'humanisme du temps et des hommes aussi fameux et importants pour les lettres italiennes que Pietro Bembo, par exemple, qui sera fait cardinal par la suite, mais avec lequel elle a entretenu toute une correspondance. Comme toutes les jeunes filles de son temps, ayant une éducation aristocratique, elle joue du luth, bien sûr, elle s'intéresse à la poésie. Ce n'est pas une, je dirais, même si elle a eu comme maître un des grands maîtres de l'université romaine, Pomponio Leto, ce n'est pas une humaniste, bien sûr, elle a un bon latin, un peu de grec, mais elle est capable, si j'ose dire, de faire un compliment en latin, mais ça semble ne guère aller au-delà. Mais comme duchesse de Ferrare, et encore de nos jours, elle l'a laissé au Ferrare, l'impression, le souvenir du moins d'une duchesse cultivée et particulièrement attentive en fait à la vie des arts telle qu'elle se développait depuis déjà plusieurs décennies dans la principauté.
Et Pentoricchio l'a bien représentée, puisqu'elle était
alors là, c'est tout
telle
un...
Vénus.
C'est tout un débat parce que, si vous voulez, on a voulu très tôt, dès la fin du 19e siècle, l'historien d'art, Charles Hiriart notamment, s'est employé à identifier tous les personnages de la fameuse dispute de Sainte-Catherine, cette grande fresque de la salle des saints au Vatican, de l'appartement Borgia, mais on n'a aucune certitude. Et le seul portrait véritable de Lucrèce, c'est une médaille qui a été fondue au même moment, qui ne figure pas dans l'ouvrage. Et l'on a considéré que sous les traits de Sainte-Catherine, c'était Lucrèce. La blondeur et les cheveux longs ont peut-être fait beaucoup. Mais l'historien se doit dire que les preuves manquent.
Merci beaucoup, Guy Le Tiec. Dans une prochaine émission, nous parlerons d'Alexandre VI. À bientôt.
À bientôt.